Peut-être qu'un des passages les plus incroyables des évangiles, c'est quand Jésus montre en exemple la foi d'un centurion romain, ce qui n'était certainement pas l'archétype de la foi, de la théologie correcte ou du comportement idéal. Je vous propose de relire ce passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7. Jésus entra à Capernaum. Un centurion avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, et à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centurion, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire aussi l'introduction à l'Évangile selon Jean, donc une préparation à son Évangile, à son livre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrié : « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à méditer sur la grâce de Dieu, de chanter le cantique 80, les quatre strophes de ce cantique 80, « Tu m'as aimé, Seigneur ». 80.
Thank you.
Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs qui nous sont donnés pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend ta grâce et ta fidélité, une parole qui fait vraiment de nous tes enfants. Le serviteur du centurion a dû se demander ce qu'il pouvait faire pour s'en sortir. Malade et même mourant, incapable de se soigner, bien sûr, sans moyens, quel choix lui reste-t-il ? Le centurion, lui, a dû se demander aussi que faire. On lui apprend qu'un de ses centaines de serviteurs est mourant. Or, il n'est pas médecin. Et puis même s'il pouvait faire quelque chose, est-ce bien la peine de se démener alors que la situation est désespérée, qu'il ne s'agit ni de lui-même, ni d'un de ses enfants, mais seulement d'un seul parmi ces centaines de soldats et serviteurs ? Les responsables de la synagogue ont dû être bien embêtés quand ce centurion leur a demandé d'aller voir Jésus pour eux, pour lui. Car même si cet officier avait fait de bonnes choses, c'était un envahisseur et puis c'était un homme impur, mangeant n'importe quoi, vivant de meurtre, adorant son empereur comme un dieu. Et ce que leur demandait le centurion était très gênant. Aller demander un service à Jésus, un hérétique à moitié sorcier qui semait le trouble. Jésus aussi était dans une situation délicate. Est-ce qu'il allait pouvoir sauver cet homme qu'il ne connaissait même pas ? On sait qu'à Nazareth, Jésus n'était pas tellement arrivé à soigner les gens à cause du manque de foi des gens de sa ville. Et puis pourquoi est-ce que Jésus devrait guérir cet homme, comme le lui demande ce centurion ? Apparemment, il y avait là pour Jésus plus d'inconvénients que d'avantages à faire des miracles physiques, puisque bien souvent, il semble que Jésus fasse ses guérisons comme à contre-cœur, et demande la plus grande discrétion ensuite. En effet, Jésus avait bien envie de soulager les souffrances, bien sûr, des gens, mais le faire pouvait être interprété comme si son royaume était de ce monde, ce qu'il ne voulait pas, ou comme si l'essentiel c'était la santé, comme on se souhaite souvent pour le nouvel an, ce qui n'est pas vrai, on le sait. Et donc, Jésus avait de quoi hésiter. Les situations du serviteur mourant, du centurion, des responsables de la synagogue et de Jésus illustrent bien la complexité de la vie humaine. Même la meilleure des solutions a souvent sa part d'inconvénients. C'est la première difficulté. La seconde, c'est que notre pouvoir est toujours relatif et bien souvent nul même. Mais il va y avoir ici un miracle. Malgré les limites de ce que chacun pouvait faire, l'homme mourant sera sauvé grâce à une judicieuse articulation entre les différentes personnes. C'est un des grands prodiges de cette histoire, et j'y reconnais volontiers l'action de l'Esprit de Dieu, ou de la providence de Dieu, si on veut utiliser ce terme un peu délicat. En tout cas, ce Dieu qui inspire, qui motive, qui coordonne les différentes personnes afin que cette issue favorable soit possible. Issue très improbable, en fait, puisque rien ne permettait de l'espérer. Mais le premier des miracles ici, c'est ce qui est présent à tous les niveaux et qui pourtant n'avait aucune raison d'exister, c'est la bonté gratuite. Rien n'était probable dans l'attitude des uns vis-à-vis des autres, au contraire. C'est librement que le centurion se décide d'aider son esclave. C'est librement qu'il a aimé ce peuple dont il occupe le pays. C'est librement qu'il leur a construit une synagogue. À ce moment-là, il n'avait rien à attendre de ce peuple vaincu. Les Juifs non plus n'avaient plus besoin de ce centurion. S'ils lui obéissent, c'est par reconnaissance, sans rien attendre maintenant en retour. Et tout cela leur demande un effort énorme pour surmonter de fortes barrières morales et religieuses. Jésus non plus n'avait rien à attendre de ce centurion, bien entendu, ni de son serviteur, ni du fait de guérir une personne de plus, au contraire. À Jésus aussi, le service qu'il va rendre coûte cher. Cela lui prend un temps qui lui est compté et cela perturbe sa mission personnelle qui est bien sûr hautement prioritaire. Cette bonté gratuite que l'on retrouve à tous les niveaux, c'est ce que l'on appelle parfois la grâce dans notre jargon théologique. La grâce, c'est une attitude positive qui va au-delà des simples règles, des droits et des devoirs, au-delà de la simple logique, pour choisir simplement, comme ça, d'embellir la vie d'un autre. On voit dans cette histoire ce qui peut donner envie de choisir la grâce. C'est l'estime de l'autre ou la reconnaissance. Ça peut être l'affection, ça peut être la générosité, ça peut être le simple plaisir de faire du bien, le simple plaisir de faire plaisir. Ça peut être la fidélité. Mais finalement, peu importe. L'essentiel est que cette grâce ait pu exister. La grâce est pour nous le propre de Dieu, nous dit la Bible. Cela veut dire que c'est la chose la plus essentielle, la plus fondamentale, le cœur de notre système de valeurs. Et je crois que cela renvoie dos à dos les différents idéologues qui, pour les uns, insistent sur le caractère essentiel des droits de chacun, tandis que d'autres vont insister sur les devoirs de chacun. Alors cela n'est pas faux. Il faut dans notre société un juste équilibre de droits et de devoirs, mais l'Évangile nous montre que la source de la vie est au-delà de ces codes de base. La source de la vie, c'est dans la bonté gratuite. C'est probablement l'Évangile selon Jean qui dit le mieux ce que cette façon d'être de Jésus, qu'est la grâce, a d'essentiel et de révolutionnaire. Nous l'avons entendu, Jean conclut son résumé de l'Évangile par ces mots. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il ajoute, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors effectivement, la loi de Moïse a donné la juste morale, indiquant nos droits et nos devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, la loi nous dit qu'il est essentiel de ne pas tuer ni la vie de Dieu en nous, ni de mépriser la vie de notre prochain, ni notre propre existence. Eh bien, c'est utile de le noter, bien sûr, mais la grâce va au-delà du respect de la vie. Un système de droits et de devoirs protège la vie, mais seule la grâce, la bonté gratuite, est source de vie. C'est une chose que connaît bien le centurion, lui qui est un homme de devoir, sachant obéir et sachant commander. Il sait que ce n'est pas cela qui va donner la vie, mais que seule la grâce peut le faire, cette grâce qu'il sait exister en Jésus-Christ et qui inspire son amour et son espérance. La grâce, c'est une libre générosité sans autre contrepartie que le simple plaisir de faire du bien à un autre. Il n'y a de grâce que si l'on n'était pas obligé d'agir ainsi par devoir, et que si l'on ne revendique ensuite aucun droit à cause de cela, et que l'on ne charge d'aucun devoir à cause du bien qu'on a pu lui faire, la personne que l'on a aidée. Parfois même, comme ici, l'élan de grâce prend des libertés par rapport au droit. Il n'était pas correct qu'un centurion se fasse le serviteur de son esclave. Il n'était pas correct qu'un responsable religieux aille supplier un libéral incontrôlable comme Jésus. Ce n'était pas correct que le Christ, l'envoyé de Dieu, aide des hommes idolâtres et assassins et montre même la foi de leur chef en exemple. Il y a de la hardiesse dans la grâce et Dieu en est l'exemple ultime. Il s'affranchit des tendances physiques de la nature en créant la vie. Dieu s'affranchit de l'équité quand il pardonne aux coupables. Il s'affranchit de la bonne théologie quand il aime encore celui qui le rejette. C'est ce Dieu de la grâce que nous fait connaître Jésus-Christ par son existence, par ses paroles et par sa vie. Oui, nous pouvons être reconnaissants de cette grâce incroyable que Dieu nous fait ainsi. Mais attention à cette tendance naturelle que nous avons à retomber dans la simple logique du donnant-donnant, pour nous sentir en dette vis-à-vis de ce Dieu qui nous donne la vie et qui nous ressuscite. Non. Dieu prend plaisir à nous donner la vie. Eh bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous au passage. Il le fait librement, sans penser une seconde que cela nous donnerait ensuite des devoirs vis-à-vis de lui pour le payer après coup de ce service. Dieu nous a tout donné et nous ne lui devons rien. Mais nous pouvons recevoir de lui l'envie de vivre un peu à sa façon, dans la bonté gratuite, car vivre, c'est cela. Car la grâce fait des miracles. Elle est si créatrice, si contagieuse. La grâce est donc puissante, mais elle a aussi une autre face. La grâce est également une fragilité. En effet, puisque par la grâce nous ouvrons notre cœur, nous nous exposons à des coups cruels. D'autant plus que la grâce étant au-delà du droit, le droit ne sera souvent plus là pour nous défendre. Jésus est mort à cause de ça. Rien ne l'obligeait à s'exposer ainsi, tout le lui déconseillait. Mais par lui, la grâce est venue dans le monde pour que chacun puisse en vivre enfin. Le centurion, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu en se tournant vers cet annonceur de l'Évangile qu'est Jésus. Le centurion reconnaît qu'il a besoin de lui et que cette action de Dieu n'est pas à ordonner ni à mériter, ni d'une façon ni d'une autre, mais qu'elle ne peut être qu'une grâce. Le centurion ne se vante pas une seconde du bien qu'il a pu faire. Il demande simplement, comptant sur la seule grâce de Dieu. Et le centurion ne s'excuse pas non plus des crimes qu'il a sans doute commis. Il sait que la grâce est au-dessus de ça. Sa vie, ses péchés, sa faiblesse, il pourra les présenter plus tard pour que Dieu le guérisse, comme il présente aujourd'hui le cas de son serviteur. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit Jean. La grâce est venue en lui, oui, clairement. Mais que vient faire cette deuxième notion, celle de vérité que Jean ajoute ici à la grâce? Le problème, c'est que ce mot vérité est un mot assez dangereux. On pourrait penser que l'Évangile associe la tendresse de la grâce et la rigueur de la vérité. Eh bien, ce n'est pas cela. Car dans la Bible, ce même mot désigne en même temps les notions de fidélité, de foi et de vérité. Et donc, ce qui est derrière ce mot, c'est fondamentalement la relation vraie. Ce n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question de vérité mathématique, de dogme ou de pensée. C'est une question de relation véritable, de relation profonde. Et c'est ce que l'on voit ici, puisque Jésus montre la foi ou la fidélité, puisque c'est la même racine, la foi ou la fidélité de ce centurion en exemple. La foi dont parle Jésus n'est certainement pas du domaine des croyances. le centurion n'aurait pas eu plus de 2 sur 20 un examen de théologie chrétienne et de connaissance de la Bible, sans doute. La foi, la fidélité du centurion, c'est d'être dans une relation vraie avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Il sait ce dont il est capable et il connaît ses limites. Il a, avec son serviteur, une relation qui dure, même quand son serviteur ne le sert plus. Et il a également une relation vraie avec Jésus, et donc avec Dieu, dont il tient sa puissance créatrice. Le centurion compte sur Jésus comme s'il était à son service, mais il se reconnaît pourtant devant lui comme indigne de le recevoir. Tout cela est de la relation juste, de la relation vraie. La grâce étant l'essentiel, pourquoi donc ajouter cette deuxième notion qu'est la fidélité, qu'est la relation vraie ? C'est que la grâce, comme je vous le disais, est si libre qu'on pourrait craindre qu'elle ne soit qu'un caprice, quelque chose dont on bénéficie un jour, on ne sait pas trop pourquoi, et qui nous est refusé le lendemain sans que l'on sache toujours pourquoi. Eh bien, la fidélité ajoute une dimension de durée à la grâce. La fidélité de Dieu, c'est l'engagement que la grâce n'est pas une saute d'humeur passagère, mais qu'elle est un choix délibéré, une façon d'être de Dieu. La fidélité seule ne suffit pas non plus à définir la façon d'être de Dieu selon Jésus-Christ, car on peut être fidèle dans un contrat utilitaire, fait de droits et de devoirs réciproques. Mais ce qu'apporte Jésus-Christ, c'est le tandem de la grâce et de la fidélité. C'est la bonté gratuite qui s'inscrit dans une façon d'être permanente. C'est cette association de la grâce et de la fidélité qui permet la confiance en Dieu. C'est donc une espérance plus forte que tout que permet la grâce et la fidélité. Le centurion demande à Jésus de guérir son serviteur avec une confiance formidable. « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et il en est ainsi. Nous savons tous que ce n'est pas une formule magique et que même avec la plus grande des fois possible, il arrive que notre prière « Dis seulement une parole et un tel sera guéri » soit dite sans que cette personne soit guérie comme nous l'espérions. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parce que Dieu aurait cessé de nous aimer ou que sa fidélité aurait été un peu en échec. Non. Dieu restera toujours d'une bonté et d'une fidélité sans faille à notre égard. Jésus-Christ nous le promet et c'est une vérité qui est indestructible. Mais il arrive que les circonstances ne permettent pas ce que nous espérions. Il arrive aussi que Dieu nous donne autre chose que ce que nous espérions et donc que nous ayons parfois du mal à le reconnaître. Mais ce dont je suis absolument certain, c'est que Dieu est toujours, absolument, une prodigieuse source de grâce et de fidélité dans notre vie. N'avez-vous jamais connu le bonheur qu'il y a à recevoir cette vie qui vient de Dieu ? Une vie toute simple, mais où des miracles de grâce et de fidélité ont été rendus possibles. Amen.